en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce Lachenardière.
Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparé et présenté par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Pour la prise de son, Mathieu Delajarte et la réalisation, Lucien Pénaud.
Ce cycle Marivaux avec René Desmaurice, professeur émérite de l'Université de Paris 3, et Jean-Philippe Rameau qui nous accompagnera tout au long de cet entretien. René Desmaurice, bonjour. Je suis très honorée que vous ayez accepté de nous accueillir ici, chez vous, où nous avons d'ailleurs une très belle vue sur Paris. Vous avez longuement travaillé sur l'œuvre de Marivaux et vous avez beaucoup publié sur le sujet. L'œuvre de Marivaux est-elle une de vos passions ?
Bien oui, la réponse serait positive. En fait, ça ne viendrait à remonter fort loin puisque mes études universitaires ont coïncidé avec la republication de La vie de Marianne en 1957, c'est-à-dire ça fait bien 50 ans, et ce qui a entraîné une relecture de l'œuvre de Marivaux, une remise en scène de ses pièces, une réflexion qui s'est étendue et j'y ai participé, disons. Voilà.
Il est habituel de dire que nous ne savons presque rien de La vie de Marivaux. Ce presque rien se dit en quelques dates. Pierre de Carlet de Chamblain, dit Marivaux, naît à Paris le 4 février 1688. Il fait des études de droit. Il se marie en 1717. Il devient père d'une fille en 1718 ou 19. On ne sait pas bien. Toujours est-il qu'il se trouve veuf en 1723 avec une fille en bas âge. Il est élu à l'Académie française le 10 décembre 1742. Il meurt à Paris le 12 février 1763. En effet, ces quelques dates nous renseignent peu sur la vie privée de Marivaux, ce qui n'est pas un grand inconvénient pour nous, car c'est l'œuvre qui nous intéresse ici. Il faut d'ailleurs, René Desmaurice, puisque c'est à vous qu'il revient d'ouvrir ce cycle Marivaux pour Canal Académie, que vous acceptiez de vous plier à l'exercice nécessaire de présentation de cette œuvre.
Bien, on ne sait pas grand-chose en effet de la vie privée de Marivaux, mais il y a deux ou trois événements tout de même à retenir. Il a 27 ans à la mort de Louis XIV, ce qui veut dire que sa formation intellectuelle s'est produite dans une époque extrêmement, je dirais, intéressante, à la fois malheureuse, à cause des échecs militaires et des difficultés économiques, mais aussi une époque d'intense activité intellectuelle. C'est-à-dire, c'est une époque à partir de 1690 à peu près, jusqu'à 1730, là, que ça comprend la Régence, une période très agitée à certains égards, avec des révoltes du côté des protestants, des jansénistes. Et c'est l'époque de Fontenelle et de Fénelon. Je dirais que c'est le moment d'une crise sociale et aussi d'une crise qui, sur le plan littéraire, se traduit par la querelle des anciens et des modernes notamment. Alors, je vois qu'en effet, sur la vie de Marivaux, tout de même préciser une chose qui me paraît très importante, qui est que oui, il a fait un bon mariage, il venait d'une famille aisée mais sans grosse fortune, mais il a été ruiné par l'affaire de l'eau en 1720, complètement, et c'est un sort qu'il partage, ça vaut la peine de le noter, avec le peintre Chardin, qui s'est également trouvé ruiné et qui a perdu sa femme et qui s'est trouvé avec en charge une toute petite fille. C'est très curieux, c'est exactement le même schéma. Bon, je pense que c'est à cette ruine que l'on doit en partie le fait qu'il a choisi le théâtre. Parce qu'à partir de là, il fallait songer, pour des raisons financières aussi, à faire carrière. Et que le roman, ça n'était pas de faire carrière. Alors je crois qu'il faut voir que c'est ce qui justifie son élection à l'Académie en 1742, parce qu'évidemment le roman est un genre méprisé, et disons, il n'est pas reconnu bien sûr par l'Académie. Donc, vaut la peine de signaler également qu'en 1742, il est préféré à Voltaire, considéré comme un peu trop subversif, et le résultat est que ça lui vaudra l'hostilité des philosophes. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a eu un gros succès. Il est, après Voltaire, le second auteur le plus joué sur les scènes françaises, ce qu'on ne sait pas habituellement, et qu'il y a une distorsion entre l'avis du public et celui des critiques. C'est-à-dire qu'il est mal accueilli par la critique et très bien accueilli par le public. Alors, vous pouvez nous dire ce qu'il a produit. Bon, à partir de 1720, avec l'Arlequin poli par l'amour, il produit une série de petites pièces, comme l'île des esclaves, l'île de la raison, qui sont d'orientation philosophique, puis les premières surprises de l'amour. Et il produit aussi, dans cette période, 1720-1730, il produit aussi des journaux, ce qu'on appelle des journaux spectateurs français, indigents philosophes, qui sont des œuvres inclassables, qui ne sont pas des périodiques en réalité, et qui sont un mélange d'histoire et de réflexion. La vie de Marianne est publiée plus tard, en 1731, plutôt ça va s'étaler en livraisons successives de 1731 à 1742. Et à partir de 1730, sur le plan du théâtre, c'est le moment de ce qu'on pourrait appeler des grandes pièces classiques, type Jeu de l'amour et du hasard, Fausse confidence, voilà, des pièces plus longues, disons, et moins, d'une certaine mesure, moins subversives, si vous voulez dire, que les premières. Malgré ce succès, Marivaux restera pauvre. Il mourra véritablement, non pas dans la complète misère, mais enfin, véritablement, sa compagne de la fin de sa vie, une certaine mademoiselle de Saint-Jean, en arrivera à refuser l'héritage qu'il lui avait laissé, parce qu'il y avait plus de pertes que de gains. Voilà. Alors, l'essentiel de son œuvre se situe donc entre 1713 et 1744. On pourrait presque dire que son entrée à l'Académie marque la fin de sa productivité. Et la dernière œuvre importante étant, en 1744, La Dispute, qui est assez, une œuvre très singulière. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sa postérité immédiate tente à le dévaluer, surtout à cause de l'opposition avec les philosophes, et surtout au moment où, à partir de 1750, il y a un tournant vers la moralisation, le pathétique. Bon, c'est le triomphe, disons, c'est le triomphe des philosophes. Et donc, il va être assimilé à, alors qu'il a lui-même milité pour les notions de finesse, de délicatesse, etc., il va être assimilé à ce que j'appellerais le côté frivole de la période rococo. Donc il est tout le temps rejeté du côté du petit, du féminin, d'une préciosité qui ne correspond plus aux demandes de la période néoclassique, bien sûr. Alors bon, on rappellera bien sûr inévitablement la phrase de Voltaire. Il passait sa vie à peser des riens dans des balances de toiles d'araignée. Bon, c'est... Je crois qu'ici, c'est ce qui a abouti à cette vision, je disais, réduite et réductrice de son œuvre. On le limite, c'est vrai qu'il appartient à la Régence et au début du règne de Louis XV, mais son œuvre est beaucoup plus considérable que les quelques pièces qu'on retenait, que le modèle étant Le jeu de l'amour et du hasard. Alors, il a eu aussi, beaucoup plus qu'on ne le dit, une influence, par exemple, sur de grands écrivains comme Rousseau et Diderot, dont l'imaginaire doit beaucoup à Marivaux, mais ils se sont bien gardés de l'avouer. Et alors, c'est pour ça que réellement, je parlais des années 1957, si on veut, il y a eu véritablement là une redécouverte complète de Marivaux. Puisque l'édition de La vie de Marianne, pour commencer par là, qui a été faite en 1957, a fait relire les pièces, et en faisant relire les pièces, a fait relire les romans, mais surtout a fait relire les pièces d'une autre manière. On s'est aperçu qu'il y avait une dimension sociale, une dimension philosophique chez Marivaux, qui avait été systématiquement négligée jusque-là. Et alors, je crois que c'est cette relecture qui a beaucoup changé les choses et qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, la vie de Marianne est un classique de nos universités, mais aussi les journaux. Voilà.
Eh bien, nous allons méditer tout ceci en écoutant un instant Jean-Philippe Rameau. il faudrait, René Desmaurys, que nous abordions maintenant le Marivaux romancier.
Bien, je voudrais dire un mot, avant de passer à la vie de Marianne et aux paysans parvenus, qui sont les mieux connus, dire un mot des premières œuvres, parce que Marivaux, c'est véritablement en 1712, en fait, dès 1712, c'est choisi romancier. Entre 1712 et 1716, il a produit trois gros romans et un petit. Et l'intérêt est que ces textes ont été réédités dans le volume de la Pléiade des œuvres de jeunesse. Maintenant, le public peut y avoir accès. Alors que, disons, qu'il y a quelques années, on était obligé d'aller chercher en bibliothèque. Je crois qu'ici, ces textes sont certainement moins intéressants que les romans majeurs. C'est des romans archi-romanesques où Marivaux prend la suite des grands romans baroques du début du XVIIe siècle. Mais il y a une chose très importante, c'est que trois de ces textes sont inspirés directement du modèle de Don Quichotte, sur un modèle comique. C'est des romans qui prennent le roman pour objet. Et l'époque appelle ces textes des romans critiques. Alors par exemple, il y a dans le Farsamo, il y a un jeune provincial intoxiqué de romans de chevalerie qui part dans le Farsamo, qui part à la recherche de sa belle. Dans un autre, c'est deux paysans qui ont lu le Télémaque de Fénelon. Et il s'imagine vivre les aventures de Télémaque et Mentor. Et dans le récit de la voiture embourbée, alors là, ce sont des voyageurs d'un carrosse qui est immobilisé dans la nuit parce qu'une roue s'est cassée. Et pour passer le temps, ils inventent un roman qui est évidemment sans queue ni tête, complètement délirant. C'est ce côté d'imagination complètement débridé qui ne correspond pas du tout à l'idée habituelle de Marivaux qu'on trouve dans ses textes. Alors ce qui est intéressant, c'est que Marivaux y affirme très énergiquement des partis pris. Il dit d'abord que l'intérêt d'un récit ne tient pas du tout à la grandeur de son sujet, mais à la manière dont l'auteur le traite. Il dit très joliment « Une pomme n'est rien, des moineaux ne sont que des moineaux, mais chaque chose dans la petitesse de son sujet est susceptible de beauté et d'agrément. Et donc, une belle paysanne peut être plus intéressante qu'une princesse. » Très important ça. L'autre point, c'est que dans ces romans qui sont donc des romans critiques, des romans quichotesques en fait, c'est héros, leur destin n'est pas sinistre comme celui de Don Quichotte. Je veux dire, ce n'est pas l'expérience d'un échec. C'est que, contrairement à Don Quichotte, leur folie est positive, c'est-à-dire qu'elle leur permet de s'adapter au monde. Alors, ces textes deviennent des espèces d'éloges de la folie. Vous voyez, par exemple, le jeune homme qui court la campagne à la recherche de sa belle, et finalement, il va faire un bon mariage avec une veuve plus très jeune, d'accord, mais tout de même assez riche. Et les héros du Télémaque travesti finissent par devenir de véritables héros parce qu'ils se trouvent mêlés à la guerre des Cévennes, en fait, les révoltes protestantes dans les Cévennes. Alors, ce que je dirais, c'est que ce que Marivaux pose dans ses romans, et ce qui va se retrouver dans ses romans ultérieurs, c'est que le fantasme fait partie de la vie, qu'il est une force dynamique, et qu'on a, au fond, tout intérêt, parfois, à ne pas savoir ce qu'on est pour pouvoir devenir autre chose. Et ça s'exprime chez lui par une formule frappante, qui voit grand à grand. Autrement dit, nous sommes devant un éloge de la folie, et j'avais appelé ça la fonction fabulatrice. Cette fonction fabulatrice, vous voyez, qui, chez les classiques, est un facteur d'erreur, un facteur d'égarement, devient au contraire chez Marivaux le moyen par lequel un être se construit lui-même. L'imagination n'est pas trompeuse, elle est dynamique, elle est productive. Alors, je crois qu'ici, ces romans peuvent intéresser. Alors, on peut trouver notamment La petite voiture embourbée, à mon avis, est un vrai bijou. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y trouve une utilisation, disons, de l'imagination, de la fonction fabulatrice qui va se retrouver dans les romans de la maturité. Et alors, on y trouve également, évidemment, cet intérêt de Marivaux pour les personnages, disons, bas, les personnages étrangers à la grande histoire, paysans, bourgeois, ou même, on retrouvera dans l'indigent philosophe, le journal de l'indigent philosophe, le personnage du clochard, quoi, tout simplement. Et du clochard philosophe, bien sûr. Alors, je crois qu'ici, d'ailleurs, il faudrait voir que l'expérience romanesque, en fait, s'est prolongée, me semble-t-il, dans les journaux qu'on ne peut pas commenter ici, parce que ce sont des expériences romanesques, nous le mettrions dans le roman aussitôt, mais qui nettement vont permettre à Marivaux de passer au grand roman donc de la maturité, c'est-à-dire Marianne, 1731-42, avec au milieu le paysan parvenu en 1734-35.
Justement, venons-en, si vous le voulez bien, aux deux grands romans donc de Marivaux, La vie de Marianne et Le paysan parvenu. Si je dis que ce sont des romans écrits à la première personne, qu'une femme, Marianne, et un homme, Jacob, ayant la cinquantaine, racontent leur vie, je n'ai rien dit en fait de la complexité et de la profondeur de ces deux romans magistraux. Mais à ce propos, René Desmaurice, je vous laisse la parole.
Marivaux avait intéressé précisément parce qu'il marque ce qu'on pourrait appeler le triomphe du roman à la première personne. Comme peut marquer très précisément, il y en a eu des romans à la première personne un petit peu avant, mais c'est une autre histoire. Et il est très net qu'à partir de ces deux écrivains qui ont inventé, si on peut dire réinventé, le roman à la première personne, c'est Marivaux et c'est l'abbé Prévost, avec les Mémoires et aventures d'un homme de qualité en 1728, et Marivaux en 1731 avec La vie de Marianne. Alors cette forme romanesque va s'imposer comme majoritaire durant pratiquement tout le siècle, concurrencée à la fin du siècle par la forme épistolaire. Alors donc le premier sujet du roman ou du récit, ce ne sont pas les faits ni l'histoire, mais c'est le fait que quelqu'un l'écrit. C'est-à-dire c'est l'énonciation. Ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est en train d'écrire sa vie. C'est-à-dire quelqu'un qui estime en somme que sa vie est digne d'un héros de roman. C'est-à-dire le narrateur va en temps tâcher de nous prouver que sa vie a bien été digne d'un roman. Alors, je crois qu'ici, d'ailleurs, c'est souligné dans le début de La vie de Marianne. Marianne explique comment elle a perdu ses parents étant tout absolument bébé lors d'une attaque de brigands contre un carrosse. Enfin, ça a tout à fait l'air d'un roman, dit-elle. Et effectivement, il y a quelque chose de fondamental là-dedans, parce que c'est sur ce fait qu'elle peut romancer sa vie qu'elle va pouvoir la construire. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le romancier est absent, mais du coup, il laisse au narrateur la responsabilité de ses énoncés. Ce n'est pas lui qui vient vous dire la vérité est là, c'est le narrateur qui le dit et à partir de là, le lecteur peut avoir une position critique. Non pas que bien sûr il suppose que le narrateur ment, mais que évidemment le narrateur est intéressé dans cette affaire. Il est entendu que pour les gens de l'époque, il n'y a pas de confusion, Le paysan parvenu ou La vie de Marianne sont des romans. Personne ne pense qu'il s'agit de mémoires réelles qui ne ressemblent pas du tout. Certains critiques ils ont parfois trompé, mais pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait absolument aucun doute. Alors, ce qu'on comprend, c'est que le récit personnel est une interprétation où le narrateur peut donner de sa propre attitude des motivations qui lui plaisent et négliger celles qui lui déplaisent. Bref, ce n'est pas un texte objectif, c'est impossible. Et du coup, ça laisse le champ libre au lecteur pour suggérer des hypothèses que le narrateur n'a pas toujours envie de formuler, ou que parfois même il est incapable d'imaginer. Donc ce que je dirais, ce qui est très neuf là-dedans, c'est qu'il y a là une activité critique du lecteur qui est sollicitée pour découvrir, au-delà même de ce que dit le narrateur, ce qui est peut-être une vérité cachée, ou tout au moins le mettre sur la voie de, je dirais, de ce coffre de discutable, tout au moins, la version qui lui en est proposée. Donc c'est ceci, nous, il n'y a pas un romancier qui vient dire « telle est la vérité », il y a un narrateur qui propose une version de son histoire, et il y a un lecteur qui ne trouvera certainement pas une vraie version, mais qui peut en imaginer d'autres, et qui peut fantasmer sur l'histoire qu'on lui raconte. Alors, je crois qu'ici, le choix de la première personne, c'est quelque chose de très important pour le 18e, parce que ça signifie qu'il n'y a pas d'histoire sans qu'il y ait un narrateur. Il n'y a pas d'histoire, en somme, objective. Il faut qu'il y ait un narrateur. Et donc, toute vérité, toute supposée vérité, est relative. Notre rapport aux autres repose sur ce que nous imaginons de ce qu'ils pensent. Et à la première personne, on ne sait pas ce que les gens ont dans la tête, alors que le romancier omniscient, lui, le sait. Et qu'aussi, on pourrait aller plus loin en disant, nous ne savons pas toujours ce que nous éprouvons nous-mêmes. Alors, le résultat, c'est que le narrateur entraîne en somme le lecteur sur l'exploration d'un passé vieux d'une trentaine d'années et sur lequel il a lui-même déjà une vision critique. Alors je crois qu'ici, il faut dire que Marivaux se livre à la tâche qui était celle qu'il assignait à l'écrivain dans ses journaux. C'est la conviction, et ça c'est très important pour Marivaux, que la réalité excède le langage. Qu'il y a à dire, mais qu'il n'est pas évident que ça puisse se dire clairement. Là, il y a une position très anti-classique. Donc pour atteindre la complexité de cette réalité, il faut réinventer le langage, en faire un usage inhabituel, éventuellement inventer des mots nouveaux. Marivaux fait partie des néologistes, comme on dit à l'époque. Et du coup, la pensée vraie porte nécessairement la marque singulière de son auteur. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité géométrique, en quelque sorte, qu'on atteint. C'est quelque chose qui ne s'atteint jamais que partiellement. Au fond, il y a la conscience que le langage défaille à toujours à certains moments. Alors, ce qu'on voit, c'est que donc il y a un refus, vous voyez, parfaitement net de la fameuse clarté classique. Hein. Ça, c'est cette opposition très nette, une position du moderne, qui est Marivaux. Et dans l'idée que ce qui importe, c'est parce qu'on découvre au fond, mais c'est en somme le trajet de la découverte. C'est cet effort pour inventer un langage qui correspond à quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre parfaitement. Et c'est ça que la première personne permet de traduire. Ceux qui se contentent du langage, au fond, pourraient le dire brutalement, pour le dire vite, ce sont ceux qui ne sentent rien.
Donc, Marianne, narratrice homodiégétique, vous en avez parlé, c'est-à-dire narratrice et personnage de la vie de Marianne, est une enfant trouvée. Dans Le paysan parvenu, Jacob, le narrateur et personnage principal également, a quitté sa Champagne natale où son père est fermier. Il vient à Paris pour tenter de devenir quelque chose. Donc Marianne et Jacob travaillent pour se faire en fait une place dans le monde. Cette question de l'ascension sociale se lit bien sûr dans le titre, Le paysan parvenu. Est-elle centrale pour Marivaux, René Desmaurys ?
Bien, le XVIIIe siècle a vu se développer en effet une mobilité sociale qui était assez bien canalisée, bon, qui est due au développement économique, à la modification de la société d'ancien régime, avec justement des moments brutaux comme l'affaire de l'eau, où se perdent et se gagnent des fortunes. Bon, Marivaux en savait quelque chose, bien sûr, puisqu'il avait été ruiné. Alors, je crois qu'il faut voir que Marivaux était très sensible aux inégalités sociales, dont on le voit entre 1720 et 1730 surtout, entre riches et pauvres, et notamment il s'est attardé sur le rapport du maître et du serviteur, sur la manière dont le maître pouvait réduire le serviteur à être un pur instrument. Alors, je crois que dans les deux cas de nos deux romans, il y a bien une itinéraire d'ascension. On vous donne, disons, pour aller vite, une enfant trouvée qui est sur le pavé de Paris sans ressources, et elle vous dit à la fin qu'elle est devenue comtesse. On ne sait pas trop comment, mais enfin, elle est devenue comtesse. Et dans l'autre cas, le paysan, eh bien, il est fils de paysan, et il est devenu un riche financier. Donc, nous n'avons pas de détails sur l'itinéraire, pour une bonne raison, c'est que le récit ne couvre pas toute une vie, contrairement à ce que laisserait attendre le titre de mémoire, comme chez Prévost, par exemple, mais qu'il couvre en réalité quelques semaines, les semaines décisives qui ont fait que le personnage a en somme franchi une frontière. On pourrait dire en gros, il a franchi la frontière qui sépare le domestique du maître, même si ce maître n'est pas un maître très puissant, il y a une barrière, il y a vraiment une ligne à franchir. Et dans les deux cas, la chose est possible grâce à une aventure amoureuse. C'est l'entrée dans le monde social se produisant en même temps que l'initiation sexuelle. Alors évidemment, c'est suspect. Je crois qu'ici, pour Marianne, par exemple, elle est à l'écart de toute société et au fond, son début pourrait presque être celui d'une picara, hein, comme dans le roman picaresque espagnol. Et la première expérience, c'est donner la proposition d'un homme âgé qui la met en fait plus ou moins sur la voie de la prostitution. Or, Marianne refuse d'être domestique et elle risque effectivement de tomber dans la prostitution. Mais elle refuse finalement, d'abord parce qu'elle a rencontré un jeune homme qui lui plaît et qui est, lui, d'excellente famille, et parce qu'aussi elle se réfère sans cesse à ce mythe d'origine au nom d'indices extrêmement fragiles. Le fait qu'elle avait des vêtements qui étaient, quand elle était toute petite, tout bébé, elle avait des vêtements de bonne qualité et elle suppose aussitôt qu'elle avait une haute naissance. Bon, alors, en gros, elle va réussir, si je peux dire, son ascension en faisant adopter ce mythe, cette espèce de fantasme qu'elle a d'être née, de le faire accepter par ses interlocuteurs et de leur faire pitié et de se faire respecter en s'arrangeant chaque fois pour dire « si je me conduis de façon vertueuse, c'est certainement parce que je suis de bonne naissance ». Alors là, je crois que l'idée que quand on est de bonne naissance, on se conduit de façon vertueuse n'est certainement pas généralement admise, mais c'est une, en somme, elle finit par le faire accepter. Alors, bien sûr, ce qu'on peut voir, c'est que elle ne manque pas d'habileté pour attirer la pitié et faire valoir sa noblesse d'âme, qui va précisément lui attirer l'attention. Et peut-être on se dit que si elle n'avait pas rencontré le jeune homme et la mère qui s'intéresse à elle, elle aurait peut-être mal tourné. Mais en fait, elle choisit la voie qui est en somme la plus périlleuse, finalement, pour préserver l'idée qu'elle a d'elle-même et qu'elle donne aux autres. C'est-à-dire que elle se comporte en fille honnête. Alors cette vertu, évidemment, je dirais qu'elle est peut-être réelle, mais en même temps, elle est tout de même très profitable, puisque c'est cette vertu qui va en somme justifier la demande qu'elle fait d'être prise en charge en réalité. Alors donc, il y a tout un mythe de la petite princesse qui, notamment, va jouer auprès de, je reviendrai sur ce problème, auprès de la mère du jeune homme, qu'elle rencontre d'ailleurs indépendamment de son rapport avec lui, et qui littéralement est passionnée pour elle. Alors, ce qu'on voit, c'est que, bien sûr, est-ce que Marianne croit à ce mythe d'origine, cette naissance, haute naissance ? On peut se le demander. Elle y croit, mais elle y croit d'autant mieux que ça lui rapporte, disons, des désavantages. Alors, Marivaux semble avoir tout d'un coup réfléchi à ce sujet et il en a trouvé une variante apparemment avec le paysan parvenu, où alors là il n'a pas hésité, il est allé sur un sujet franchement scabreux. Bon, il prend un jeune paysan qui a été laquais et il le montre, objet d'amour d'une quinquagénaire dont il est le valet et le séduisant. Alors là nous avons nettement le schéma qui est celui du gigolo. Et ce qui est tout de même étonnant dans cette affaire, c'est que ça va être, bien sûr, il va épouser cette vieille, pas vieille, enfin vieille, elle a 50 ans, quoi, 50 ans pour l'époque, c'est vieux. Cette mademoiselle Haber est dévote en plus, mais disons, elle a surtout une fortune. Et en fait, c'est de là que, évidemment, c'est à partir de là, on le devine, Marivaux n'entre pas dans les détails, qu'il va pouvoir devenir financier. Alors, tout de même, il ne s'agit pas de grandes et belles passions. Et d'ailleurs, on le voit très bien, puisqu'au lendemain du mariage, Jacob s'apprête à céder aux assiduités d'une autre dame, quinquagénaire, dévote, elle aussi. Bon, enfin, inutile de dire qu'il y a tout un élément de critique sociale là-dedans, qui est tout de même fort amusant. Ce qu'il y a, c'est que justement, on attendrait une explication cynique dans cette affaire. Or, il arrive justement que Jacob, il est paysan. Alors, par exemple, qu'en tant que habitué aux coutumes qu'il y a dans son pays, il a par exemple refusé à son premier maître d'épouser la servante, c'est-à-dire de jouer le mari complaisant, cocu et complaisant, alors que le maître offrait de faire sa fortune. C'est-à-dire qu'il y a chez lui, encore une fois, on ne peut pas parler de vertu, mais il a une certaine idée de lui-même, et cette idée, ben, il tâche de la soutenir. Alors, et on voit d'ailleurs, il y a un désintéressement, puisque son premier contact avec Mademoiselle Haber, il vient à son secours sur le pont Neuf quand elle a un malaise, elle va s'évanouir. Donc ça, c'est un geste, pourrait-on dire, de pure pitié, un geste désintéressé. Alors c'est cette capacité qui va lui permettre de se comporter honnêtement avec cette vieille fille gourmande et dévote, de lui faire découvrir les joies de la sexualité. Tout cela, naturellement, ne plaide pas pour la morale, et même de l'épouser. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on voit très bien comment Jacob, bien sûr, c'est un paysan, et il intéresse toutes ces dames, précisément parce que c'est un gros brunet qui est bien frais, jeune, etc. C'est évidemment cela qui joue. Mais que ça ne se limite pas à cela, et surtout, il n'en tire pas profit comme il pourrait le faire. C'est-à-dire qu'il s'arrange, je dirais, pour devenir ce qu'on imagine qu'il est. Alors, bien sûr, il en remet, et de temps en temps, il fait un peu le paysan. Il se fait un peu plus paysan qu'il n'est. Mais aussi, quand on l'a bien habillé, on lui a mis une épée au côté, ben, il se sert de son épée pour venir au secours d'un gentilhomme, il dit, comme un lion. Bon, c'est-à-dire, eh bien, il est devenu véritablement, lui aussi, héroïque. Alors, je dirais que là, on a typiquement quelque chose de typiquement marivaudien. Le personnage joue quelque chose, et puis il risque de le devenir. Alors, je crois que ces deux parvenants, si l'on peut dire, ils n'ont pas encore parvenu quand on les voit, les deux parvenants, Marianne et Jacob, on s'aperçoit qu'au fond, ils ne sont pas motivés directement par l'argent. Marianne, disons, s'intéresse à une cornette. Jacob aime beaucoup bien manger. Enfin, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas la fortune qui l'intéresse. Et surtout, ce ne sont pas des calculateurs. C'est-à-dire qu'ils se déterminent par rapport à quelque chose qui est tout à fait capital chez Marivaux, qui est la notion d'instinct ou de sentiment. Alors là, je crois qu'il faut insister là-dessus parce que là, Marivaux a insisté sur ce sentiment qui, pour lui, désigne un petit peu ce que nous appellerions, nous, intuition, c'est-à-dire la capacité de saisir globalement une situation, de la saisir de façon non rationnelle et d'être capable de donner à cette situation une réponse immédiate. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui court-circuite le langage et qui court-circuite la démarche rationnelle. Et ces deux personnages, voilà. Au lieu de s'occuper de sa fortune, Marianne se fixe sur une cornette. Elle obéit à ce qui est Et finalement, cette cornette lui servira bien, puisque ça va plus ou moins amener, disons, sa fortune. Alors, je crois qu'ici, on a un comportement des deux personnages qui se comportent comme des animaux sociaux qui ont un instinct qui leur fait trouver la réponse juste et qui les fait se comporter de façon en fait, irrationnelle. Alors, ce qu'il y a de très neuf chez Marivaux, c'est de dire que cet instinct est capable de répondre à des situations extrêmement complexes que le héros ou le narrateur sont incapables d'exprimer verbalement. Autrement dit, on se situe hors du langage verbal, j'entends. Alors, je crois qu'ici, il y aurait des tas d'exemples qu'on peut trouver dans les romans. Enfin, je prends l'exemple, par exemple, lorsque Marianne est gênée d'avoir avoué qu'elle habite chez une lingère, ce qui laisse supposer le pire, et elle ne sait plus quoi faire, elle pleure. Elle dit, voilà, je pleurais, c'était ce qu'il fallait faire. Aussitôt, on se dit, c'est la petite princesse infortunée. Alors, il y a des moments où on voit que la réponse paradoxale du sentiment est la bonne, alors que celle de la raison serait incapable d'être pertinente. Alors je crois qu'ici, il y a un héritage qui est extrêmement net, et Marivaux l'a dit ailleurs, c'est un héritage pascalien, c'est l'esprit de finesse de Pascal, c'est la connaissance du cœur, opposé bien sûr à la raison géométrique de Descartes. Alors je crois que ce sentiment se manifeste notamment sur ce que Marivaux, dès ses premiers romans, appelait la sympathie. Ce qui touche à la relation amoureuse, mais pas seulement. Et alors là, on rejoint la notion, disons, de sentiment au sens courant du terme, je veux dire au sens affectif. Ce sentiment, cette capacité, cette intuition s'accompagne d'une modification sur le plan affectif, c'est-à-dire effectivement de ce que nous appelons aujourd'hui sentiment. Alors, si vous voulez, les personnages de Marivaux dans la vie ne sont pas du côté des géomètres, ils sont du côté de ce que j'appelais tout à l'heure l'écrivain, celui qui vraiment s'applique à essayer de saisir ce qui échappe au langage et de le préciser. Mais leurs réactions sont des réactions spontanées, instinctives. Que Marianne tient pour spécifiquement féminine, mais on voit bien que les hommes n'en sont pas dépourvus chez Marivaux. Alors je vois qu'on aboutit à une conclusion très curieuse, c'est que la force du personnage, au fond des deux personnages de Marivaux, tient à sa capacité de s'ignorer, ça paraît pas bizarre, et croire à ce qu'il joue. C'est-à-dire que au fond, c'est un immense avantage de n'avoir pas de conscience claire. Parce que si Marianne avait une conscience trop claire de ce qu'elle fait, elle se rendrait compte qu'elle est dans une position extrêmement, extrêmement périlleuse. Et là, je dirais que la conscience obscure, tant qu'elle reste obscure, permet d'agir sur l'autre en jouant le rôle qui est le plus susceptible d'attirer justement sa sympathie ou d'attirer d'autres bénéfices. Alors, autrement dit, le secret à certains égards de Marianne et de Jacob, c'est dans une certaine mesure qu'ils n'ont pas de dessein secret et conscient, qu'ils ne mentent jamais. Ils ne sont peut-être pas très loin, mais ils ne mentent jamais. Et bien sûr, ça ne peut pas durer éternellement. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va bien falloir passer au langage et le langage va figer, justement. Mais l'essentiel est peut-être de préserver cette capacité d'agir, de penser, de sentir hors du langage. Il faudra bien à un moment, lorsque Madame Dutour dira à Marianne « Profitez-en de ce vieillard, allez-y, n'hésitez pas », Marianne, là, est bien obligée de se rendre compte de ce qu'elle est en train de faire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle répond par l'émotion, se mettant en colère, en disant « Mais c'est pas vrai !» Et en fait, ça n'était pas vrai, en effet. Elle pouvait ne pas s'en rendre compte. Alors, l'effet, évidemment, ce serait dans les effets miraculeux, si je peux dire, de l'imagination. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On pourrait dire que chez Marivaux, qui voit grand à grand, surtout quand on ne se rend pas compte exactement de ce qui se passe. Et je dirais que Marianne tente à devenir la fille vertueuse qu'elle a jouée, mais elle le fait finalement par amour pour Madame de Miran. Et quant à Jacob, on lui met une épée, il devient un héros. Et à certains égards, c'est des paradoxes évidemment du mouvement de Marivaux, c'est que l'habit fait le moine en somme. Alors je crois qu'ici, c'est au fond, ce que Marivaux dit, c'est que la particularité du sujet humain, c'est qu'il a rapport avec sa propre représentation, telle qu'elle lui est fournie par le langage et le comportement des autres, mais c'est à travers des images de lui-même qui sont d'abord produites par les autres que ce sujet va progressivement se définir, se reconnaître lui-même, de telle manière qu'il puisse continuer, et ça c'est essentiel, à s'aimer lui-même et à être aimé. Alors, ce qui fabrique une identité, mais effectivement c'est dans le regard de l'autre que se construit cette identité, c'est donc une identité qui est, disons, fragile, menacée et susceptible de changer. Voilà, à peu près ce qu'on pourrait dire à partir du thème de la censure sociale, puisque c'est là que se pose la question de vertu ou pas.
Vous avez intitulé l'un de vos articles « Aux frontières de l'impensé, Marivaux et la sexualité ». Ce titre n'est-il pas provocateur, René Desmaurice? La question amour et sexualité dans l'œuvre de Marivaux a-t-elle été souvent traitée?
Bien, souvent traité, je ne sais pas. Tout dépend. Enfin, dans les critiques marivaudiens, généralement, on n'emploie pas le mot de sexualité. Mais enfin, disons que le terme de sexualité, évidemment, de façon intentionnelle, fait un peu coup de pistolet dans un concert, au titre de mon article. Je pense ici, évidemment, aux protestations qu'avait soulevé l'idée de Roger Planchon d'avoir mis un lit sur la scène dans la seconde surprise de l'amour, qui était une manière d'affirmer qu'il s'agissait chez Marivaux de sexualité, et je crois qu'il avait raison. D'ailleurs, Marivaux l'a dit lui-même, quand on dit « je vous aime », cela veut dire « je vous désire ». Ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais bon, alors ce que je dis simplement, c'est que à envisager l'ensemble de l'œuvre, et là évidemment, on est obligé d'en tenir compte, on s'aperçoit que Marivaux repense complètement la question, je dirais à la fois la question du couple et la question du rapport sexuel et la question de l'amour, dans un sens aussi franchement anticlassique, sans avoir jamais fait, parce que précisément il refuse la démarche du philosophe, sans avoir jamais fait de synthèse théorique. Alors, je crois qu'ici, c'est évident, j'entendrai le terme de sexualité au sens large, c'est-à-dire freudien, c'est-à-dire, et non pas évidemment, dans son acception purement génitale. Alors, je vais essayer de déterminer un peu les contours de cette théorie. L'expérience de l'amour est de toute façon essentielle pour Marivaux. C'est ce qui vaut la peine de vivre, selon lui. Et je crois que son objectif, c'est d'essayer de l'examiner, d'examiner la nature de cet amour et la nature de la relation qu'il implique à l'autre. La position classique étant volontiers d'y voir le résultat d'une demande du désir physique qui se camoufle plus ou moins sur le décor du sentiment, mais qui finalement, selon La Rochefoucauld, reviendrait de l'amour propre sans plus. Et je crois que cette conception pessimiste, bien entendu, je crois que c'est contre cette conception que Marivaux s'est en fait élevé. Alors je crois qu'il faut penser la question dans un cadre nouveau, c'est-à-dire le cadre que va constituer une vraie révolution, enfin pas une révolution parce qu'elle se produit lentement, mais ce qu'on pourrait appeler la substitution à la grande famille tribale d'Ancien Régime de la famille nucléaire, le père, la mère, l'enfant, qui est un lieu évidemment qui ne vient pas d'un coup, qui ne se produit pas d'un coup, mais où désormais ce qui va compter pour beaucoup, c'est l'échange des affects entre les différents membres de cette famille. C'est-à-dire que c'est le moment où on arrive à cet éloge de la sensibilité familiale. Alors ce qu'on pourrait constater, c'est que bien sûr le théâtre de Marivaux se passe presque toujours dans une famille. Et que la réaction des jeunes premiers est plutôt une résistance à l'amour. Contrairement à ce qui se passerait chez Molière, si vous voulez, où les jeunes gens veulent aimer et les parents les en empêchent, je dirais presque que c'est le contraire chez Marivaux. Les parents poussent au mariage et les enfants se trouvent très bien tels qu'ils sont sans avoir envie de s'en aller. Alors je crois qu'ici, il y a un point important. Que ce que dit Marivaux, c'est que le sujet connaît en son enfance un rapport heureux qui est un rapport d'amour avec ses parents, dans le meilleur des cas bien sûr, et qui n'a aucune envie, pas toujours tellement envie de s'en aller. Pourquoi ? Parce que je dirais que l'amour de ses parents lui permet de s'aimer lui-même et que la survenue de l'amour d'un tiers étranger à la famille perturbe en somme cet équilibre qui est un équilibre satisfaisant. Et profitons-en pour dire rapidement que effectivement cet amour de soi que cultive et qui est exprimé dans les pièces, hein, que cultive le héros marivaudien, est considéré par Marivaux comme une force éminemment positive, contrairement à ce que pensent les classiques de l'amour propre. Alors, le résultat est que l'amour comporte le risque d'un arrachement à soi, l'amour et le mariage, qui, si j'ose dire, vont souvent avec, puisque maintenant on commence à adopter, à accepter l'hypothèse du mariage d'amour, comporte donc le risque d'un arrachement à soi et donc d'une perte dont on ne sait pas si elle sera compensée par l'expérience amoureuse ou conjugale. En somme, on pourrait dire rapidement « aimer fait peur ». Aimer quelqu'un, c'est risqué. Alors là, je pense à la formule de Pascal qui dit « quand on aime quelqu'un, on aime en réalité que les qualités ». Ce qui était une manière pour lui de dénoncer, bien sûr, le leurre de l'amour humain, le seul vrai amour, étant, comme chacun sait, celui de Dieu. Alors je crois que Marivaux accepterait la formule pascalienne, mais sans sa portée réductrice. Le sujet amoureux a dans bien des cas le sentiment d'aimer quelqu'un d'irremplaçable, c'est quelqu'un d'unique, c'est bien celui-là qu'il aime. En réalité, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à travers cet être, à travers ce choix, s'inscrivent d'autres demandes qu'il détermine, et que Ces demandes sont notamment celles qui ont été satisfaites par les parents, qui ont pu permettre à l'enfant d'assumer le risque d'aimer. Et alors là, on arriverait peut-être à une conclusion extrême, qui serait fondée sur Arlequin poli par l'amour. À la limite, est-ce qu'il peut y avoir un désir sans sentiment ? C'est-à-dire, c'est tout de même le paradoxe qu'a abouti Marivaux, qui ne parle jamais du désir physique, alors qu'il est présent, mais il n'en parle pas parce que, au fond, est-ce que pour lui, il peut y avoir désir sans sentiment ? En réalité, il semble bien que non. Il faut au moins qu'il y ait l'ébauche. Alors évidemment, je ne dirais pas que Marivaux a réinventé le complexe d'Édipe, mais enfin, on est très proche ici de préoccupations freudiennes, en ceci que du coup, Marivaux signale une interférence entre les affects qui sont connus dans une famille, l'amour du père ou de la mère pour l'enfant, de l'enfant pour ses parents, et la relation amoureuse. Et ça, je crois que c'est très important, puisque ça conditionne, disons que cette préparation affective conditionne l'accès à l'amour. Alors je crois que nos deux romans sont intéressants, parce que sur ce plan-là, de façon curieuse, il n'y a pas de famille représentée, puisque Marielle a perdu ses parents, et en réalité, et ceux de Jacob sont absents. Mais en fait, Marianne a eu l'étaillage avec le curé et sa sœur, elle a eu l'étaillage de vrais parents. Et alors, je vois qu'ici, on va voir comment, en fait, son aventure va être étroitement, je crois, déterminée par ce passé-là. Lorsqu'elle arrive toute seule à Paris, il faudrait la signaler, puisque je parle de Freud, la manière amusante dont elle pénètre, si l'on peut dire, la société, la haute société. Elle voit ce jeune homme, Valville, dont elle sait que c'est un homme de la bonne société. Or, elle est sur le pavé de Paris et elle a besoin de protection. Et en sortant de l'église où elle l'a vu, elle tombe sous les roues d'un carrosse. Un accident. Or, cet accident, le carrosse, c'est celui du jeune Valville. On pourrait dire que là, on est devant, bien avant Freud, devant un superbe geste manqué. Et naturellement, qu'arrive-t-il ? On la met dans le carrosse, on la ramène à la maison, et là, elle peut exhiber son pied pour Valville avec une satisfaction dont la narratrice reconnaît qu'elle est sans mélange. Alors je crois qu'ici, il y a quelque chose qui se passe et qui va être en fait de retrouver auprès de Valville, mais aussi, et peut-être plus encore, auprès de Madame de Miron, ce que, en somme, ce qui est la relation parentale. Alors ça devient extrêmement net parce que le contact entre Madame de Miron et Marianne se perd en dehors du rapport à Valville d'abord. C'est après coup qu'on découvre que par une coïncidence admirable, la mère, le fils et l'oncle sont tous trois amoureux de Marianne. Bon, ce qui est évidemment un de ces hasards remarquables. Mais un hasard qui a peut-être un sens. Est-ce que précisément ces trois personnes ne sont pas attirées par Marianne précisément parce qu'ils ont quelque chose en commun ? Qui n'est pas tellement la question de sang ou de naissance, mais qui est la participation à une ambiance affective commune. Et là, il y aurait peut-être quelque chose de troublant, évidemment, ce qui pose des questions difficiles, parce que c'est assez troublant tout de même que la mère et le fils choisissent le même objet d'amour, et surtout que l'on peut parler dans ce cas-là, je crois, d'amour. Et alors, ce que montre Marivaux, c'est qu'il y a un déplacement, en somme, de la passion amoureuse pour Valville du côté de la mère. Et d'autre part, il faut bien dire que d'après ce qu'en dit Marivaux, il y a une passion de Madame de Miron pour Valville, c'est-à-dire un déplacement vers, disons, un objet sexuel qui n'est pas un objet qui théoriquement n'est pas sexuel pour elle. Enfin, avec lequel elle ne peut pas avoir de relation sexuelle. Je dirais que là, on frôle évidemment non pas tellement le thème de l'homosexualité, mais on trouve l'idée que, en somme, la relation amoureuse peut, en quelque sorte, se diffuser. Enfin, elle n'est pas spécifique du rapport génital, si j'ose dire. Elle peut très bien se diffuser ailleurs. C'est-à-dire, je dirais que nous assistons chez Marivaux à ce que j'appellerais une sexualisation aux hommes de l'affectivité. Et ça me paraît très important. Et cette sexualisation trouvant son origine, précisément, dans la famille initiale. Alors je crois qu'ici, dans le cas, on dira plus vite si vous voulez, sur le paysan parvenu, où de toute évidence, la relation qui s'est créée entre Mademoiselle Habert et Jacob est une relation mère-fils, étant donné les 30 ans de distance entre l'un et l'autre, et le fait que d'ailleurs, sans la moindre hésitation, Mademoiselle Habert qualifie Jacob mon fils, mon enfant, elle l'appelle mon fils, mon enfant, il est très net qu'elle est dans la position de la mère qui donne en l'occurrence la nourriture, les vêtements, etc. Il y a là rapport sexuel, mais il n'y a pas inceste. Il n'y a pas inceste, bien entendu. Mais là, le modèle on voit ici, alors bien sûr, ce n'est pas la belle passion chez Jacob. Il a de l'affection, de la reconnaissance. Il y a un véritable rapport affectif. En revanche, il y a belle passion du côté de Mademoiselle Habert. Et en même temps, eh bien, Marivaux montre une chose, c'est qu'ils sont heureux comme ça. Et je crois que tout de même, il y a tout de même un pied de nez à l'inceste. Enfin, nul ne peut manquer d'y penser. Simplement, ça, on pourrait dire que ça ne se refoule pas. Alors, il y a une chose très amusante, c'est que lorsque Mademoiselle Habert défend devant le tribunal la cause de Jacob, elle dit, mais Jacob, où il en est? Eh bien, c'est le point où, à cet âge, était mon propre père. Alors, est-ce qu'on veut que je refuse mon propre père? Alors là, on a envie de dire, Monsieur Freud n'a rien inventé. Enfin, il y a tout de même un argument extrêmement curieux. Alors, je dirais que simplement, ce que Marivaux, et pas seulement dans ses romans, mais aussi dans l'histoire de l'inconnu, dans Le Spectateur français, a montré que la sphère familiale est aussi un espace libidinal, où se joue déjà l'ouverture au monde. Alors, je crois qu'il faut rappeler la dernière partie de La vie de Marianne, où il y a une démonstration négative, en quelque sorte, avec l'histoire de Tervire. Alors, l'histoire de Tervire est absolument sinistre. C'est l'histoire d'une fille abandonnée, d'une fille qui n'a pas eu, justement, ce que j'appelle l'étayage maternel, ni paternel. Bon, elle a des tas de malheurs, je n'entre pas dans le détail. Mais, surtout, la conséquence grave de tout cela, c'est que elle est incapable de toute identification à l'autre. C'est-à-dire qu'à la limite, on pourrait dire que par moments, elle est idiote. En fait, elle se construit une morale pour résister au malheur qui l'accable, mais en même temps, elle est tout à fait incapable de précisément d'assumer le risque d'aimer. C'est-à-dire, cette héroïne morale, alors elle est beaucoup plus morale, là, elle n'a aucun recours aux sentiments ou aux ruses, il n'y a pas de ruse instinctive. Elle obéit à la morale et le résultat est évidemment catastrophique parce qu'elle est incapable d'aimer. Alors je crois qu'ici, Marivaux touche à ce qu'on pourrait appeler la pathologie mentale. Il montre à quel point l'accès d'un sujet à l'échange avec les autres est tributaire d'un étayage de paroles qui succède à celui de la nourriture, l'étayage de paroles que suppose le rapport avec les parents, qui donne en somme le bon usage du langage avec la conscience de son artifice et la conscience de ce qui ne se dit pas. Au fond, Tervire est une victime du langage, à certains égards. Bon, alors, je crois qu'il faudrait dire, bien sûr, que le couple, la symétrie du couple du paysan parvenu ne constitue pas certainement un idéal pour Marivaux, mais je crois qu'il faudrait insister qu'à une conception du couple dont les deux éléments se ressembleraient et dont l'un serait parfaitement transparent à l'autre, Marivaux substitue une autre formule qui est la complémentarité. Chacun donne à l'autre d'une certaine mesure, ce qui lui manque. Et la rencontre amoureuse permet à chacun aussi d'avoir accès à ce qu'il ne sait pas de lui-même. C'est-à-dire que là, il y a un mouvement de complémentarité qui est l'opposé, disons, de la vision en miroir que donne la formulation la plus classique de l'amour. Ce qui suppose, bien entendu, comme l'être échangeant, qu'il a une dynamique, que la fidélité n'est pas exclue, mais que c'est par le désir. L'infidélité n'est pas exclu, simplement, puisque à passer par le désir de l'autre, le sujet renouvelle ses objets et voit se modifier son rapport au monde. C'est-à-dire que j'entends par sexualité à cet endroit, c'est le fait que c'est un rapport total qui comprend le rapport aussi bien aux autres personnes, mais aussi aux personnes qui ne sont pas visées directement par l'action sexuelle, qui peut être le rapport, bien sûr, à une cornette, si l'on veut, ou à une épée. Voilà. Et je crois qu'ici, c'est certainement un point très original dans la représentation, disons, de la sexualité chez Marivaux.
Dans votre article « Aux frontières de l'impensé, Marivaux et la sexualité », vous écrivez que Marivaux, en plaçant le désir du côté de la civilisation, dénonce l'artifice d'un mythe de la passion violente comme essence même de la relation amoureuse. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet, René Desmaurys ?
Je pense ici à l'Abbé Dubos, qui est un critique de 1719, qui disait qu'en réalité, les grandes et belles passions, seuls les princes et les rois pouvaient les vivre. Donc c'est pour ça qu'il fallait les conserver dans la tragédie, parce que leur toute-puissance les dispense des obligations et des exigences que connaissent les simples mortels. Au fond, ils ont le temps. Alors, je crois qu'ici, évidemment, on pensera ici au modèle de la passion racinienne. Alors, Marivaux, comme vous le savez, hostile au grand genre, hostile à la tragédie, traite tout autrement les choses. Il est évident que ceux qui ont le pouvoir, je dirais, éprouvent souvent des passions qui feraient penser précisément au type racinien de la passion, c'est-à-dire la passion possessive et destructrice. Ce sont des rois, des princes ou éventuellement des financiers. Et volontiers, ils sont attirés vers ce qui leur manque. Et qu'est-ce qui manque aux gens riches et puissants ? La faiblesse et la pauvreté. Donc ils s'intéressent à des bergères, des paysans, ou éventuellement même, pour le financier, la fille du concierge. Alors je crois qu'ici, Marivaux fait une analyse tout à fait singulière. Ce qu'il dit, au fond, c'est que les personnages puissants ou riches sont habitués à ce que tout leur obéisse et qu'ils ne supportent pas cette perte de maîtrise que suppose l'amour. Donc ils tâchent de réduire cette part d'inconnu que comporte l'objet aimé par des manœuvres de contrainte ou d'examen qui peuvent prendre un caractère très cruel et même franchement sadique. Alors, on le voit au théâtre, dans La Double Inconstance, on le voit dans Le Triomphe de l'amour, où la princesse écrase proprement tout ce qui est autour d'elle. Et on le voit aussi dans L'Épreuve, où le Lycidor financier fait subir une épreuve parfaitement inutile à la jeune fille qu'il aime. Alors, je crois qu'ici, ce qui serait en somme la formulation classique de la passion, je dirais que Marivaux la voit comme une espèce de position pathologique, en somme. Position narcissique, et qui n'est pas sans analogie avec celle du libertin qui a peur d'aimer et qui donc s'assure avant tout des moyens de pouvoir. Et c'est là où, si je peux dire, la relation génitale, évidemment, suppose qu'il n'y a pas de sentiment, une peur du sentiment. Version donc pathologique où le sujet amoureux ou qui vit mal son amour est hanté par la peur de perdre. Alors dans les romans, ces personnages sont pratiquement absents. Je le signale donc comme une sorte de point de comparaison. Sinon peut-être par le passage du libertin qui intervient comme dans l'entretien entre Madame de Ferval et Jacob, où il intervient et empêche justement la réalisation de l'amour dans Le Paysan parvenu. Et on peut peut-être penser à l'abus de pouvoir du vieux Climal dans La Vie de Marianne, mais le vieux Climal, on a l'impression qu'il n'est pas complètement à l'écart du sentiment. Alors je crois qu'ici, il est très important, c'est que, disons que la position classique tendait, au moins pour les tragédies, à assimiler la passion amoureuse à une violence. Une violence qui, en somme, serait une forme du viol. Et je crois que Marivaux dit le contraire. Parce que pour lui, justement, c'est une formule singulière tenant au narcissisme de certains personnages, en somme, pourrait presque dire détraqués par leur pouvoir. Et que l'amour naturel est beaucoup plus pacifique, si on peut dire. Alors c'est amusant parce qu'on retrouve cette idée dans le discours, dans un des discours, je ne sais plus lequel, de Rousseau, qui précisément dit que la violence dans les rapports amoureux est un trait de civilisation et pas de nature. Voilà pourquoi je disais que cette idée de la passion violente est donnée comme l'artifice propre, en somme, à certaines catégories de la société, ou plutôt à une catégorie, qui serait celle des rois et des princes.
René Desmaurys, je voudrais que nous parlions maintenant de l'évocation de la mort dans le roman marivaudien, et en particulier dans Le Paysan parvenu. Vous avez publié à ce sujet un article, « Inquiétante étrangeté, vœux de mort et dévoration dans Le Paysan parvenu » dans la revue Marivaux, où vous écrivez, je vous lis, « Cette intervention précoce de la mort, il s'agit de la mort subite du premier maître de Jacob, encore valet, donc cette intervention précoce de la mort dans un roman que son narrateur et son style situent ostensiblement du côté du comique doit être évaluée par rapport aux préoccupations des écrivains de l'époque, aux prises avec un clivage traditionnel entre noble et bas, et soucieux de faire passer du côté des genres mineurs un peu de la capacité d'émouvoir qui appartient de droit aux genres élevés, sans tomber pour autant dans l'extravagance. Marivaux, sans la théoriser, répond-il à cette demande par l'évocation du rapport à la mort qu'engage l'existence quotidienne ? René Desmaurys, je vous renvoie donc votre question.
Oui, alors je crois qu'ici, il faut partir du clivage qu'institue l'époque entre genre noble et genre bas, dit-on, d'un côté comédie et roman, de l'autre tragédie, si l'on veut. Et en somme, on pourrait dire que seuls les grands personnages ont droit à ce qu'on trouve leur mort intéressante. La tragédie peut émouvoir, la comédie doit faire rire, voilà d'où on part. Conséquemment, je dirais que, quoi qu'il leur arrive, les gens ordinaires, peuple, paysan, bourgeois, sont toujours traités sur un mode comique. Alors, je crois qu'ici, quitte à y perdre du côté du rire, Marivaux a fait dériver la comédie du côté de l'émotion, c'est sûr. C'est sensible, on ne rit pas toujours tellement aux comédies de Marivaux. Mais il n'est pas question d'y introduire une représentation de la mort. Alors, ce qu'on trouverait, on la trouverait cependant dans les journaux où Marivaux a essayé, justement, dans deux ou trois histoires, d'introduire une dimension qu'on pourrait appeler pathétique dans les histoires qu'il raconte. La fille abandonnée par son amant, parce que, et qui a un enfant et qui se retrouve à la rue. Enfin, Marivaux a joué sur cette fibre-là. Alors, et on pourrait, alors ce que j'ai été frappé simplement du fait que dans les romans de la maturité, donc les deux dont nous nous occupons, en laissant de côté, disons, les scènes d'horreur qu'on pourrait trouver dans La voiture embourbée, il y a une espèce, je dirais, surtout une espèce de basse continue de la mort, qui est inutile en somme à l'intrigue proprement dite. Voilà, simplement, bon, dans Marianne, ça se limiterait à cette ouverture où on voit la petite fille qui est étouffée sous le poids du cadavre de sa mère, mais ensuite on ne rentre pas tellement dans l'évocation de la mort ou de l'horreur. Alors que dans Le paysan parvenu, dont la tonalité, c'est un roman gay, c'est un roman joyeux, on s'amuse de voir Jacob en train de progresser auprès de Mademoiselle Aber, enfin, c'est vraiment joyeux, on y mange bien, enfin voilà. Or, en même temps, j'étais frappé par le nombre d'occurrences où intervient la mort. Par exemple, mort par apoplexie du premier patron, qui est décrite d'ailleurs de façon très saisissante. Sa maîtresse Geneviève, qui est la servante, abandonnée alors qu'elle est enceinte. Le malaise de Mademoiselle Aber, dont le premier mot qu'elle lui dit est « je me meurs », ce qui est tout de même un vrai programme. Le rappel de son âge, qui est constant. Un assassinat croisé au coin d'une rue, ce qui fait emprisonner Jacob. Une Madame d'Orville, dont le mari a été blessé par un loup, enfin encore une curieuse histoire, et qui a perdu son emploi. Une attaque de bandits où Jacob se met à manier une épée. La maladie d'une autre de des conquêtes de Jacob qui menace de tourner très mal. Enfin, il y a une sorte de rappel constant. Et alors, moi, il m'a semblé qu'ici, Marivaux était en train d'essayer de contourner ce qui serait une interdiction, de contourner une interdiction de son genre qui lui interdirait de représenter la mort. Alors, il n'en a pas fait un objet central, mais il en a fait ce que j'appelle une basse continue. Autrement dit, nous avons une introduction de ce que j'appellerais un tragique du quotidien et qui ne vise pas à faire concurrence au grand sentiment de la tragédie, simplement rendre la mort présente. La concurrence, disons, au grand sentiment de la tragédie, on le trouvera plus tard dans le drame bourgeois. Oui, ça, j'ai dit Diderot, Sedaine, etc. C'est pas cela que Marivaux fait. Il rappelle simplement que les gens ordinaires, les gens qui vivent, pas au niveau de l'histoire, pas au niveau de la tragédie, ces gens-là, ils meurent aussi.
Je pense que nous nous acheminons maintenant vers notre conclusion, vers la conclusion de notre entretien. Est-ce que vous souhaiteriez aborder un dernier aspect de l'œuvre de Marivaux, Monsieur Desmaurys?
Nous avons déjà parlé d'une toute petite partie de ce qui peut être intéressant chez Marivaux. Je voudrais donc conclure très brièvement. Il y a un mot que je n'ai pas prononcé, que je voudrais prononcer maintenant. C'est ce qu'il importe de comprendre, je crois, que c'est qu'on a eu souvent une interprétation psychologique de Marivaux. Marivaux ne fait pas tellement de la psychologie sur les caractères, sur les patients, parce que ce qu'il propose, c'est autre chose, et c'est là le mot que je voulais prononcer, il propose en fait une anthropologie. Une anthropologie qui est fondée, qui est en rapport évident avec les présupposés modernes du sensualisme, qui envisage non pas ce qu'est telle ou telle personne, ce qu'elle est fondamentalement, mais bien ce qu'elle devient. Comment elle répond à son environnement, comment elle est modifiée par son environnement. Et je crois que là, et c'est pour cela que nous nous trouvons sans cesse avec des identités, je dirais, dynamiques, mais en même temps fuyantes, impossibles à saisir de façon définitive par le langage, mais qui constituent une exploration de la psyché humaine précisément sous un angle anthropologique. Et je crois que c'est ce qu'avait compris Prévost lorsqu'il tenait Marivaux, l'a dit dans un texte critique, à l'égal de Descartes, pour un des grands explorateurs de la condition humaine.
Merci beaucoup, Monsieur Desmaurys. Merci beaucoup. René Desmauris, je rappelle que vous avez publié, entre autres, Du Chevalier de Mouy, les mémoires d'Anne-Marie de Maurras, chez Desjonquères en 2006. Vous avez établi le texte, les notes et les postfaces. Vous avez également publié le roman à la première personne du classicisme aux Lumières. C'était chez Armand Collin en 1975 et ça a été réédité chez Droz en 2002. Vous avez édité en 2001 La peinture en procès, la naissance de la critique d'art au siècle des Lumières, en collaboration avec Florence Ferrand chez PSN. Et puis, Les fausses confidences de Marivaux, l'être et le paraître. C'était en 1987 chez Belin. Donc, nous avons parlé des articles Aux frontières de l'impensé, Marivaux et la sexualité, Pensées de Marivaux, aux éditions François Salin, Crin, numéro 40, 2002. Et puis, de l'article Inquiétante étrangeté, Vœux de mort et dévoration dans le paysan parvenu, Nouveau regard sur le paysan parvenu. Donc cet article se trouve dans la revue Marivaux, numéro 6, 1997. Pour retrouver toutes nos références, j'invite les auditrices et les auditeurs à se reporter à la page de notre première émission du cycle Marivaux, un philosophe et l'amour, un cycle de 4 émissions préparées et présentées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie. Et pour la prise de son, Mathieu Delajarte et la réalisation, Lucien Pénaud.